Alors, le message d'aujourd'hui, donc on continue dans la série sur la lettre de Paul aux Philippiens, qui est une lettre merveilleuse. C'est pas long, c'est 4 chapitres dans le Nouveau Testament. Je vous invite à la lire en entier. Ça prend comme moins de 10 minutes, d'après moi, de lire la lettre aux Philippiens. C'est une lettre pleine de joie. Ça va vous faire du bien. Vous pouvez lire ça à la maison. Et le contexte de cette lettre, Paul est un apôtre et un missionnaire. Il est en prison et il écrit une lettre d'encouragement à une église que lui, il a fondée avec son équipe avant de se retrouver en prison. Elle persévère dans sa mission locale et elle soutient Paul dans sa mission et aussi dans sa détention carcérale. Alors, c'est une lettre qui est pleine d'émotions aussi. Ça vous donne une idée du contexte. On va lire Philippiens 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Mais d'abord, encore une fois, remettons-nous devant Dieu. Oui, Seigneur, je prie que tu nous donnes de pouvoir être à ton écoute. Remplis-moi de clarté, mais en même temps, s'il y a des défauts, que tu aides tout le monde à regarder au-delà des défauts pour prier pour moi, mais surtout pour se dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je dois retenir? Y a-t-il quelque chose que je dois mettre en pratique? Père, ouvre les oreilles de notre personne intérieure. Nous prions au nom de Christ. Amen. Alors, Philippiens 4, pardon, 1, verset 4, on va commencer la lecture. Et ceux qui ont leur Bible peuvent ouvrir, c'est au tout début. Et ça dit ceci. Dans toutes mes prières pour vous tous, dit Paul, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Est-ce que vous arrivez à voir? En effet, Dieu est mon témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient de Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Alors, je vous ai parlé d'un voyage que je vais faire dans la semaine qui vient, mais cette semaine qui vient de passer, je suis allé avec plusieurs autres à la retraite des ouvriers. Ça, c'est une rencontre annuelle des pasteurs du Québec, de l'Alliance. Et oui, quelle joie de nous retrouver par-delà les distances. En passant, vous avez vu que le titre, c'est « L'amour par-delà les barrières », hein? Alors, on a été heureux de nous retrouver, les pasteurs, dans cet amour qui est au-delà des distances qui nous séparent d'habitude. Et nos contextes différents d'églises. Les églises sont vraiment très différentes dans, par exemple, les langues dans lesquelles on célèbre Dieu. Il y a des églises vietnamiennes, par exemple. Il y a des églises qui célèbrent en créole. Il y a des églises en chinois. etc. Les cultures, les quartiers. Mais on a un même salut que nous avons reçu de Dieu par grâce. Et on a senti ça tout de suite que, wow, on est unis malgré la distance et les différences. Un même amour qui nous unit et un même combat que nous partageons. Et en fait, l'équipe qui a organisé la retraite, qui a eu lieu proche de Québec, eh bien, ils ont invité un gars qui s'appelle Georges Dabot, un pasteur vraiment qui a un gros impact dans la ville de Montréal. C'est le pasteur de l'Église évangélique arménienne de Montréal. Et Georges, wow, il a prêché avec beaucoup de fougue et il nous a beaucoup encouragés. Mais c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, la plupart d'entre nous, mais avec qui, très vite, on a senti ce même amour mutuel. Il s'est mis à parler et puis on s'est dit, wow, le même combat, le même amour. Il a en lui le même salut par grâce et il connaît le même Seigneur. Et lui-même a senti ça très tôt le premier soir quand il parlait. Il dit, je me sens bien chez vous. Et est-ce qu'on pourrait éteindre l'enregistrement? Je voudrais vous parler d'un défi personnel que j'ai. Alors, la personne à la technique a arrêté d'enregistrer parce que ces messages vont aller à l'Internet. Mais il nous a pasteur. Mais tous les chrétiens, un sentiment qu'on travaille en équipe. Et quand on se disperse, on est quand même unis. Et on a tous quitté cette retraite encouragée, avec un sentiment de solidarité mutuelle, et on prie pour ceux qui sont au loin. Et ouais, je sais que Michel était là avec Lise et Cheryl et plusieurs autres de l'Oasis. Et je crois que, j'ose dire que je pense qu'on a tous ressenti cette unité-là. Et c'est pour ça que, parce que c'est vraiment un peu au centre de ces quelques lignes qu'on a lues dans la lettre de Paul, on peut le résumer ainsi. Si, comme Paul, j'oriente ma vie pour participer à l'œuvre de l'Évangile avec les autres chrétiens, si j'oriente ma vie comme ça, eh bien, ma capacité d'aimer comme Jésus va grandir et s'améliorer. Lorsque j'oriente ma vie pour participer à l'œuvre de l'Évangile avec les autres chrétiens, lorsque je dis, je vais m'engager moi aussi à vivre cette vie-là, à véhiculer l'Évangile, à le vivre et à le propager, pas tout seul, mais avec les autres chrétiens, eh bien, j'entre dans un monde d'amour, une famille d'amour, et j'apprends à aimer. On va voir comment Paul va parler de ça, et va prier pour ça, pour ses destinataires, les Philippiens. Et en fait, ce que je voulais attirer, ce à quoi je voulais attirer votre attention, c'est plusieurs réalités spirituel dans la vie de chaque chrétien, chaque Philippien, mais chacun de vous, moi aussi. Il y a des réalités spirituelles que Paul mentionne ici. Et elles sont importantes pour lui, parce que ça lui donne confiance de prier avec joie pour ces chrétiens-là à qui il écrit. Il y a des réalités spirituelles tellement importantes. Puis c'est ces mêmes réalités qui ont enclenché cette unité à la réunion des pasteurs à laquelle on était cette semaine, Michel et moi et Cheryl et tous les autres. Alors, Paul va pas mentionner quelque chose qui est sous-entendu dans chaque mot. Donc, c'est présent. Des fois, dans un texte, il y a quelque chose qui est présent sans que ça soit dit parce qu'on voit que, par exemple, il va le mentionner plus tard dans la lettre et on peut le déduire. Mais la première chose c'est qu'on est sauvés ensemble par grâce. Paul va le dire ailleurs dans Philippiens, mais c'est vraiment à la base. Tu es sauvé avec moi par grâce. Dieu est venu te chercher, pas à cause de tes mérites, mais juste parce que Dieu t'aimait, puis il veut te sauver. Il veut que tu sois pardonné, il veut te pardonner. Et c'est sous-entendu, mais c'est la base de tout. Et je veux juste te le rappeler ce matin. Dieu t'a sauvé par grâce. Puis si c'est nouveau pour toi, Dieu veut te sauver par sa grâce. Grâce veut dire cadeau gratuit. Tu dois le recevoir par la foi. C'est une promesse que Dieu te fait. Si tu reçois Jésus dans ta vie, si tu acceptes ton pardon, tu vas être pardonné, tu vas être sauvé. Et donc, Paul est en train de célébrer ceci avec les Philippiens. Il dit ailleurs, dans une autre lettre, il va dire aux Éphésiens, il va dire, « Car c'est par grâce, grâce veut dire cadeau gratuit de Dieu, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est quand même rassurant, non? C'est rassurant. Ça ne vient pas de moi. C'est le don de Dieu. Dieu, il veut venir te chercher ce matin dans sa grâce et te dire, reçois mon pardon. Rentre dans ma famille. Laisse-moi entrer dans ta vie. Éphésiens 2, 8 et 9 continue en disant, ce n'est pas par tes bonnes œuvres afin que personne ne se glorifie et que personne ne se compare aux autres. On rentre dans un monde de grâce avec l'Évangile. Alors ça, c'est le premier point qui est sous-entendu. Cette réalité nous unit, cette réalité nous donne de la joie les uns par rapport aux autres. On n'est plus en train de se comparer les uns aux autres. Il y a beaucoup de milieux religieux où c'est beaucoup, ça finit par être basé sur on se compare les uns aux autres. Puis moi, je suis plus performant que toi, alors je suis comme plus haut que toi dans la chaîne de notre monde religieux. Et malheureusement, dans les églises, ça arrive aussi. Mais l'Évangile vient pour détruire cela. Et on devient tous dans l'Évangile des pécheurs sauvés par grâce, par cadeau gratuit. Et ça nous donne la liberté de nous encourager les uns les autres. Deuxième réalité que Paul met en valeur, et ici, il met ça en valeur d'une manière explicite au verset 6 qu'on a lu. On est conscient d'avoir été adopté par Dieu, et je suis conscient que toi aussi, tu as été adopté par Dieu comme un projet de, on va dire, construction, reconstruction, restauration, qui est de grande valeur. Il y en a-tu ici qui travaillent dans la construction? Je sais qu'il y en a, mais ils sont chez eux. Thibault, par exemple. Oh, je vois un frère. Rappelle-moi ton prénom. Luther, tu travailles dans la construction? Bienvenue. On est heureux, on a besoin de vous. Mais chacun de nous, on est un projet de construction, en fait de reconstruction de Dieu. Mais une chose qui est merveilleuse, c'est que Dieu, il voit la valeur du résultat final. Il a très hâte. Bien, il prend son temps, mais il est très conscient que quand tu vas avoir fini avec toi, tu vas valoir des millions. Je parle en termes humains, là, mais... Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les modèles réduits. Savez-vous qu'est-ce que c'est des modèles réduits? C'est comme ça vient dans une boîte. C'est comme... En fait, j'en ai un chez nous en ce moment qui n'est pas terminé. C'est l'avion Concorde. C'est un modèle réduit de l'avion supersonique qui voyageait autrefois entre Paris et New York, Londres et New York. Et mais il est gros de même. Donc, c'est fait en plastique. C'est des morceaux séparés. Puis, c'est comme un long projet pour quelqu'un qui aime ça, avec de la colle et de la peinture et beaucoup de patience pour le construire. Et j'en ai fait plusieurs quand j'étais jeune, mais là, une de mes filles m'en a donné un récemment. Et je l'ai commencé. C'est beaucoup de travail. Il faut beaucoup de patience. Puis des fois, ça ne marche pas, puis il faut recommencer telle ou telle étape. Puis en fait, je dois vous dire, il est en chantier depuis longtemps. J'ai comme abandonné. J'ai abandonné mon Concorde il y a comme 2 ans. Et puis, il est comme sur une étagère, puis il n'est pas fini. Ouais, c'est ça mon histoire. Non, il y a plus. Parce que c'est relié à ce que j'essaie de dire. C'est que si quelqu'un, mettons Jean-Claude qui est au fond là-bas, qui venait me voir, j'invente un scénario. Marc, j'ai entendu que les modèles réduits du Concorde, là, qui sont terminés puis bien peinturés, ils valent 5 millions de dollars. Mettons qu'il m'apprenait ça. Qu'est-ce que vous penseriez que je ferais? C'est sûr que je me remettrais à le construire. Hein? Quand même, je ne suis pas idiot. Bien, Dieu, il est comme ça par rapport à vous. Pensez que ce que Dieu a commencé en toi quand il est venu te sauver, toi, pécheur, brisé, endommagé, avec aussi des péchés peut-être bien incrustés qui ne partent pas tout de suite. Quand Dieu arrive à une étape où toi, tu as l'impression que Dieu va se décourager parce que c'est « j'avance plus », mais Dieu n'est pas comme ça, parce que lui, il sait. Toi, à la fin là, du parcours que lui, il est engagé à terminer, tu vas valoir plus que 5 millions. Vous me suivez? Vous me suivez? Alors, Paul est conscient que lui est un tel projet de Dieu. Il est conscient que chaque Philippien est un tel projet de Dieu. Peu importe comme la lenteur du processus. Et pour chaque personne, c'est différent. Puis, peut-être que les projets plus lents parmi nous sont ceux que Dieu il peut avoir une affection spéciale, parce qu'il dit, ça, c'est un projet. Ce gars-là, c'est tout un projet, puis moi, je vais être très patient pour l'amener à bout. C'est ce que Paul dit dans 1 Philippiens 6. Une autre réalité qui nous unit et qui nous donne de l'amour les uns pour les autres. Et ensuite, il y a la grâce d'une mission commune. Et au verset 7, Paul dit, « Vous êtes unis avec moi dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. » Alors, pour Paul, il y a sa mission. Donc, il implantait des églises. Il prêchait, il débattait. Et les gens qui étaient convaincus, ben, ils donnaient leur vie au Seigneur. Et après, ils les affermissaient. Comment? Ben, en les enseignant, en les intégrant dans l'Église, et ainsi de suite. Défense et affermissement de l'Évangile. Là, il s'est fait arrêter pour ses activités missionnaires. Il est en prison. Et quand il dit défense et affermissement de l'Évangile, il pense aussi à son procès, parce qu'il va devoir défendre son appel divin d'être un missionnaire chrétien, un apôtre, devant des juges. Et ça fait partie aussi de sa mission. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire aux Philippiens, c'est qu'eux aussi, ils ont leur mission. Ils doivent défendre l'Évangile. Ils doivent aussi poursuivre à le proclamer. Ils doivent le partager avec leurs co-ouvriers, avec leurs patrons et leurs propriétaires, parce que plusieurs d'entre eux étaient des esclaves. Et c'était pas facile non plus. Et ils devaient aussi bâtir leur église. Et c'est pas facile d'affermir une église. Hein? Et l'Oasis non plus. Bien, à Philippe, ça devait pas être facile non plus. Et Paul dit, moi, je me réjouis parce que nous avançons ensemble dans une mission commune et vous partagez ma mission, je partage la vôtre. Et ils ont fait des gestes concrets pour s'entraider parce que Paul, quand il écrit la lettre, il dit « Merci pour le don que vous m'avez envoyé. » À l'époque, comme l'Empire romain, disons, était beaucoup moins bien humain et généreux et organisé que, mettons, Correction Canada. Je veux dire, quand quelqu'un au Canada se retrouve en prison, ben au minimum, il lui donne un repas, tu sais, par jour, trois repas par jour, et bien d'autres choses aussi. Dans l'Empire romain, et je pense que c'est comme ça dans plusieurs pays du monde aujourd'hui, et il faut que ce soit des amis qui amènent la nourriture. Et là, c'est l'Église des Philippiens qui a pourvu aux besoins de Paul, et Paul les remercie. Donc, il participe à une mission commune, mais il n'y a pas juste ça. Il participe aussi à une persécution commune. Paul parle de ses chaînes, hein, au verset 7. Vous participez avec moi dans mes chaînes, ça parle de son emprisonnement, mais que Paul voit comme une espèce de, presque un trophée de son appel que Dieu lui donne. C'est sûr qu'il préférerait ne pas être en prison, mais il dit, mais mes chaînes, qui devaient lui faire mal et qui devaient le rendre très inconfortable, parce qu'il était peut-être enchaîné à un autre prisonnier qui sentait mauvais, qui peut-être l'insultait, qui avait peut-être des poux. Il devait être enchaîné et assis par terre où c'était très humide, où il y avait des bébites et ainsi de suite. Mais il dit, mes chaînes, OK, c'est la preuve, là, c'est la preuve que Dieu est en train de m'utiliser, que je suis en train de participer aux souffrances de Christ. Mais il dit aussi que les Philippiens participent avec lui. Et j'aimerais dire un mot sur les chrétiens persécutés dans le monde d'aujourd'hui. Dans notre monde, il y a probablement plus de chrétiens persécutés qu'à n'importe quelle époque. C'est vraiment très grave, la croissance de l'opposition aux chrétiens dans le monde entier et dans plusieurs pays. Et j'aimerais vous partager que Paul a écrit dans 2 Timothée 3:12 à une autre église encore, il dit, vous savez que tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est 2 Timothée 3:12. Est-ce que toi, tu veux vivre avec piété en Jésus-Christ? J'entends des oui timides. C'est peut-être bien d'hésiter légèrement, mais je pense qu'on est tous appelés à dire oui. Bien, la réalité, c'est qu'on va être persécuté et que ça, c'est aussi, dans un sens, une preuve qu'on est dans la bonne voie, comme Paul dit. Et dimanche prochain, c'est le dimanche de prière pour les chrétiens persécutés. Et évidemment, les prières se concentrent sur ceux qui sont en prison, ceux qui sont vraiment qui fuient pour leur vie parce qu'il y a des mouvements militants antichrétiens qui veulent les tuer, qui ont brûlé leur maison, qui ont peut-être tué déjà quelqu'un de leur famille. On pense à eux et on va prier pour eux. Partout au Canada, en tout cas, c'est la journée, c'est le 5 novembre. Mais ces gens-là qui sont en prison, qui sont persécutés, quand ils nous écrivent pour nous remercier pour nos prières, vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, on n'aime pas toujours ça quand les gens au Canada disent, ben vous, là, les pauvres persécutés, on prie pour vous, puis nous, on remercie Dieu pour le privilège de ne pas être persécuté. Puis il nous rappelle 2 Timothée 3:12. Saviez-vous que la Bible dit que vous aussi, vous êtes persécutés? Même vous au Québec, même vous au Canada. Puis ça veut dire 2 choses. Ça veut dire on doit être solidaire avec eux. Quand eux, ils sont en prison, en quelque part, on est là avec eux. On doit se solidariser avec leurs souffrances et prier pour eux. Et c'est pour ça qu'on va prier, qu'on va prier la semaine prochaine et au-delà. Mais aussi, c'est que peut-être qu'on ne se rend pas compte de la persécution qu'on vit ici au Québec. Au fond, c'est quoi la persécution? C'est l'ennemi de nos âmes qui s'organise pour nous fermer la trappe, pour qu'on ne soit pas des témoins efficaces. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire pour que dans la douceur et dans la séduction, on soit inefficace, qu'on ne vraiment ne soit pas focalisé sur notre mission et sur notre témoignage. Vous comprenez-vous qu'il y a une persécution efficace contre nous qui est comme, que peut-être on l'accepte avec douceur, des lois qu'on accepte sans réfléchir, des principes qui sont établis dans le bureau où on travaille, que peut-être le Seigneur nous demande d'avoir un peu d'audace pour les remettre en question et être des témoins, et que peut-être on se laisse faire et on reste dans le confort, mais cette persécution-là, qui est douce et subtile, bien, finalement, est en train de nous rendre inefficaces. Alors, ceux qui sont en prison nous disent, n'oubliez pas qu'on est des co-persécutés. Et c'est ce que Paul dit aux Philippiens aussi. Nous participons à une même persécution. Parce que tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ avec piété, donc dans la vérité, seront persécutés. Quelque chose à réfléchir, quelque chose à prier, quelque chose à vivre. Un autre point, on est une famille qui prie les uns pour les autres dans la joie. On a vu la semaine passée que c'est ce que Paul pratique. C'est une des passions de sa vie. Et je l'imagine dans sa prison. Des fois, quand on est forcé à être tout seul, et Paul se disait sûrement, ben, regarde, les gardes, ils m'ont enlevé mon iPad, j'ai plus mon cellulaire, ma télé est loin. Hey, je sais qu'est-ce qui va être le fun. Je vais penser à mes frères et sœurs, je vais prier pour eux dans la joie. Je vais les passer un par un dans mon esprit, puis je vais demander au Saint-Esprit de m'aider à prier pour leurs besoins, à prier, puis à le remercier pour la reconstruction qu'il est en train de faire dans leur vie. Et puis, il passait sûrement des heures. Et c'est quelque chose auquel j'aspire. Et j'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère. Peut-être que je fais des progrès, mais je crois aussi, je suis très attaché à d'autres activités. Et donc, continue à prier pour moi, que ma vie de prière et d'intercession continue d'augmenter. Si vous êtes comme moi, eh bien, vous comprenez ce que je veux dire. Au début, c'est pas facile de devenir un intercesseur. Mais je vois que Paul est épais dans cette activité et c'est une activité efficace. C'est une activité qui porte du fruit. Et pour revenir aux chrétiens persécutés, aux chrétiens isolés, aux chrétiens qui souffrent, il y a des gens en prison qui nous écrivent et qui disent « Merci de prier parce que il n'y a pas personne anyway qui peut venir physiquement jusqu'à moi dans ma cellule de prison. Mais je suis au courant que vous priez, puis je sais que vos prières traversent les barrières, traversent les murs des prisons, traversent les barreaux et viennent jusqu'à moi. » Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, que même si toi, tu es immobilisé, mais tu peux te rendre jusqu'à la cellule de prison de quelqu'un qui est au Yémen, de quelqu'un qui est en Corée du Nord et qui souffre dans une cellule de prison ou dans un hôpital à cause de l'Évangile. La dernière réalité que Paul mentionne, que moi j'ai relevée en tout cas, il se réjouit que lui et les Philippiens, ils ont une attente commune. Ce que lui appelle le jour de Christ, bien c'est le jour où Jésus va revenir, comme le credo dit, pour juger les vivants et les morts. C'est ce que la Bible dit. Mais aussi, c'est que ce jour-là va être un jour de gloire pour les chrétiens, où Jésus va te dire, tu as vécu avec Christ, tu es sauvé par grâce et tu as porté du fruit en Christ et maintenant entre dans le royaume de mon Père. Et ça, c'est un royaume éternel. Et c'est là où notre vraie vie commence. Bien, notre vraie vie. La grosse partie de notre vraie vie. Tu vis ta vraie vie maintenant, mais je veux dire, c'est juste une petite partie de ton existence. Quand tu vas être dans le royaume de l'autre bord du jour de Christ, waouh, ça va être toute une vie. Est-ce que tu y crois? Oui. Et peut-être que tu es jeune puis tu te dis, mais j'y crois, mais j'y pense pas souvent parce que j'ai vraiment hâte à avoir ma nouvelle job, à avoir mon prochain amour, rencontrer mon âme sœur. Je comprends tout ça. Mais je peux vous dire, moi, je viens d'avoir 62 ans. Et puis, oui, la vie peut... Il y a des belles grâces ici, mais quand on vieillit, on réalise, waouh, c'est merveilleux qu'on ait une autre vie qui s'en vient, là. Et donc, même les jeunes, il ne faut pas perdre de vue. On se prépare pour rencontrer Christ. Et cette conviction que Jésus revient et qu'il va, nous finir cette reconstruction, cette transformation en un clin d'œil quand on va le regarder dans les yeux. Et donc, cette attente, en fait, ça crée, supposé créer un détachement par rapport à ce monde-ci. Non pas qu'on ne doit pas travailler bien dans ce monde-ci et avoir à cœur, mais on n'est pas comme les gens du dehors qui vont mettre beaucoup d'efforts à accumuler des plaisirs, accumuler des privilèges, accumuler des richesses au détriment des autres. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est la seule vie que j'ai. Non, on n'est pas comme ça. On va rencontrer Jésus, il va nous amener dans un autre royaume. On peut lâcher prise. Et comme ça, on apprend à aimer les choses qui sont vraiment importantes. Et qui fait qu'on est supposé être différent des autres dans nos affections, dans les choses dans lesquelles on investit, dans les choses qu'on aime. Et c'est ça que Paul prie pour les Philippiens. Il dit, je prie que votre amour continue à grandir en force, mais aussi en discernement. Ça, c'est, ça veut dire choisir la bonne chose à aimer. Il y a une histoire que je voulais vous rappeler, que le Seigneur m'a rappelé, que je voulais vous raconter, qui explique ça, comme aimer la bonne chose au bon moment. C'est ça que Paul prie pour nous et pour les Philippiens. Il y a un homme qui s'appelle Maximilien Kolbe. Puis c'est un exemple un peu extrême d'aimer la bonne chose, mais qui a impacté le monde entier en réalité. Alors lui, en fait, c'était un prêtre franciscain. Et Maximilien Kolbe était polonais et il s'est fait arrêter par la Gestapo durant la Deuxième Guerre mondiale et il a été enfermé au camp d'Auschwitz, qui est un camp de la mort, Je ne sais pas exactement pourquoi, sûrement ses activités religieuses, peut-être politiques aussi, je ne sais pas trop, mais en tout cas. Et il était là-bas, et puis les gardes annoncent qu'un père de famille de 4 enfants va être pendu, va être tué ce jour-là, et il invite, j'imagine, tout le monde à venir voir. C'est comme ça que ça se passait dans ces camps-là. Et il y avait d'autres horreurs aussi. Et ce prêtre, il a dit, « Non, mais écoutez, prenez-moi à la place. Moi, je suis prêt à mourir. Laissez cet homme la vie. » Et il se disait, « S'il survit la guerre, s'il survit le camp, il pourra retourner s'occuper de ses enfants. » Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Je ne connais pas les détails, mais en tout cas, les gardes y ont pris Maximilien. Ils l'ont exécuté avec une injection de poison en 1941. Ils ont brûlé son corps dans le four crématoire. Et l'autre homme a survécu. Et autant que je sache, il est retourné à sa famille. Et J'imagine que ce prêtre se disait, je suis prêt à partir. Alors, au lieu d'aimer ma propre vie, je vais faire un acte d'amour envers mon prochain et je vais donner ma vie à sa place. C'est un exemple extrême, mais voyez-vous que quand on attend le retour de Christ, on sait que notre vraie vie, on l'a déjà avec Christ. Et puis le meilleur, c'est après. Eh bien, on peut ajuster nos amours pour vraiment aimer les bonnes choses que Dieu veut qu'on aime. Et c'est ce que Paul prie ici pour la vie des Philippiens. Et c'est la même chose dans nos vies. Alors, on va conclure. Paul est conscient, mais en fait, on va conclure la partie message, mais je dois vous parler d'un projet aussi qui va dans le même sens. Donc, Paul est conscient de cette nouvelle identité commune et cela lui donne un sentiment de famille. Donc, il va orienter sa vie dans le sens d'une intercession joyeuse pour ses partenaires qui sont au loin et qui sont unis à lui dans la grâce de Dieu et dans le travail.